Dissidence, l'émission politique tactique qui mène la danse. Rouen Alternatif, Attaque, Valério et Judy regardent ailleurs et autrement tous les samedis matins entre 11h et midi sur le 99.1. Dissidence rediff dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du mat. Dissidence.
Auditrices, auditeurs, bienvenue sur HDR 99.1. Vous êtes en ce samedi matin avec l'équipe de Dissidence. Dissidence animée cette semaine par les Alternatifs. On est heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder la question palestinienne. On vous en a déjà parlé il y a à peu près un an avec comme invité Denis Siffer. Malheureusement, ce sujet reste pleinement d'actualité et garde toute son importance. On n'aura pas assez d'une heure, bien sûr, pour aborder tous les aspects de cette question. On va essayer de s'arrêter, de faire des zooms sur quelques points. Et puis, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Amal. Amal, qui est une Palestinienne de Bethléem et qui s'exprimera dans la deuxième partie de l'émission pour nous présenter un petit peu la situation autour de Bethléem et l'action qu'elle mène dans le cadre de Tent of Nation. Sont aujourd'hui réunis pour vous faire passer cette heure Rachel, Daniel et Thomas pour l'équipe des Alternatifs. Bonjour. Et Shérif, bien sûr, le grand can à la technique qui s'occupe de nous. Alors, vous n'avez sans doute pas entendu, chères auditrices et chers auditeurs, que la nuit de l'élection de Barack Obama a été marquée en Israël par la décision d'attaquer la bande de Gaza et ainsi de mettre fin à la trêve qui existait dans la bande de Gaza depuis le mois de juin. Hein, Israël a bien choisi sa nuit puisque ça permet que personne n'en ait entendu parler, qui s'est traduit par une attaque militaire contre Gaza, à la suite de quoi les Palestiniens ont décidé d'envoyer des roquettes sur Israël. Et donc, Ehud Barak, le ministre israélien de la Défense, a décidé d'aggraver le blocus qui concerne Gaza, en particulier concernant les carburants, ce qui fait que Gaza n'a plus d'électricité. Donc si on comprend bien, les Palestiniens sont donc privés d'électricité. Pourquoi ? Parce que les Israéliens ont décidé de rompre la trêve qui existait depuis le mois de juin dans la bande de Gaza. On a voulu commencer par ça parce que c'est un petit peu symbolique de ce qui se passe actuellement en Palestine. On reviendra, si on a le temps, un petit peu plus en détail sur la situation de Gaza. Mais à travers cet exemple se pose à la fois la question des violences, de l'influence extérieure et de la question de la résistance palestinienne par rapport aux violences et à l'occupation. Deuxième petit point sur lequel on voulait revenir, vous avez déjà eu l'occasion d'entendre fidèles auditeurs d'HDR et de Dissidence, vous avez déjà entendu parler de Bilin, ce petit village digne d'Astérix qui résiste en Palestine et qui commence à être connu puisqu'ils ont fait le choix de résister par le biais de la non-violence en manifestant chaque vendredi contre la construction du mur, puisque vous savez que le fameux mur de séparation qui est construit actuellement va séparer le village en deux et permettre à l'État israélien de récupérer 60% des terres de ce village. Et que les militants de Bilin et les anarchistes contre le mur, qui sont de jeunes militants israéliens, viennent de recevoir cette semaine le prix de la médaille Karl von Ossietzky de la Ligue internationale des droits de l'homme qu'ils vont recevoir au cours du mois de décembre à Berlin, ce qui pose, qui va nous permettre...
À Berlin ?
À Berlin, oui.
Pas à Bilin.
Non, à D'accord, Berlin. Ouais. Effectivement.
Ne
pas confondre, Thomas.
Le mur de Berlin et le mur de Bilin.
Tout à fait. Et ne pas confondre « Ich bin ein Berliner ».
Et « Ich bin ein Berliner ».
Et voilà, c'était le petit mot d'humour pour détendre l'atmosphère.
Effectivement, on se sent beaucoup mieux.
Voilà, derrière cette petite blague, il y a quand même un fond politique qui est très pertinent sur la comparaison de la construction des deux murs. Et je pense que Thomas a très bien parlé aujourd'hui. Alors... cette question de la résistance non violente face à une résistance violente n'est pas anodine. Hein. Sachez, chers auditeurs, que ces militants de Bilin qui manifestent pacifiquement, donc sans armes, chaque vendredi, depuis 4 ans, en sont quand même à compter 13 morts. 13 Palestiniens tués par l'armée israélienne pour le simple fait de manifester devant le mur à Bilin. Qui parmi vous en a entendu parler ?
Bah oui, nous, bah, parce qu'on
s'en... Moi, tu me l'as dit.
Non, voilà. On s'y intéresse.
Je l'apprends à l'instant même.
Voilà. Et ben vous voyez, si mes fidèles compagnons ici présents n'en avaient jamais entendu parler, c'est vous dire s'il y a un blackout concernant ces informations et concernant la violence. Alors, une des questions qu'on peut peut-être se poser pour commencer, c'est est-ce que l'élection de Barack Obama va radicalement changer la situation ?
Oui, alors allons-y. Bah il y a une question qui
Ouh là là, vous l'avez compris, c'est Daniel qui va essayer de répondre à cette question.
Pendant que Shérif essaye de m'enlever le micro, c'est de la censure. C'est de la censure. On est si loin que ça, tu m'entends ? C'est bon ?
Ouais.
Alors une question qui a été posée aux Juifs américains et en Israël au cours des semaines qui ont précédé le résultat des élections américaines, une question fondamentale apparemment pour les communautés juives. Barack Obama est-il bon pour les juifs ? Apparemment, ils étaient en droit de se poser les questions suivantes. Comment quelqu'un, un homme noir, dont le deuxième prénom est Hussein, et qui avait un grand-papa musulman, n'est-ce pas là un danger pour Israël ? Ne serait-il pas plus pro-palestinien que pro-Israël ? Alors, on a assisté en Israël, à, notamment sur une chaîne de télévision publique, à une propagande pro-McCain qui était vraiment évidente. On a eu l'occasion de voir l'ambassadeur israélien à Washington se déplacer en pleine campagne électorale pour aller rencontrer... Sarah Palin, donc c'est ce qui est un geste politique très fort. Et la vraie question, c'est de savoir si cet homme-là, si ce nouveau président va radicalement pouvoir changer les choses. Alors, est-ce qu'il en a envie ? On est en droit de le penser. Pourra-t-il le faire ? Ça, c'est autre chose. On sait que et le Parti démocrate et le Congrès américain sont de toute façon bénéficient de soutien très important au sein de la communauté juive, notamment au niveau des dons et des financements. Donc c'est très difficile pour Barack Obama d'aller de changer radicalement de politique. Dans les faits et très concrètement, il a aussi décidé de reprendre une grande partie des assistants juifs de l'équipe de Bill Clinton. Donc c'est d'une certaine façon un retour en arrière. Il n'y a pas de vraie évolution. Et il a récemment nommé au poste de secrétaire général de la Maison Blanche Monsieur Rahm Emanuel, qui est un représentant juif de l'Illinois, qui a fait partie de l'équipe de Bill Clinton et dont le père a déclaré très dernièrement un média israélien, je cite, « Mon fils n'est pas un arabe et il ne va pas cirer les parquets de la Maison Blanche ». Donc ça donne le ton, et c'est vrai que c'est une nomination qui laisse perplexe, et on demande à voir, même si les nominations de Barack Obama pour le poste de secrétaire d'État et celui de conseiller à la sécurité nationale seront, eux, vraiment très révélateurs de la politique qu'il a l'intention de mettre en place. Quoi qu'il en soit, même sans un changement radical de la politique américaine au Proche-Orient, ce qui est certain, c'est que le simple fait de changer de président et de passer aussi à quelqu'un de nouveau et de démocrate, c'est déjà la fin de la politique unilatéraliste des États-Unis. On verra par la suite comment les choses évolueront.
Alors merci Daniel pour cette analyse. Peut-être pour pour compléter, hein, on peut dire que de toute façon, la politique d'Obama pourra pas être pire que celle de George Bush, tout simplement, puisque la politique de George Bush concernant la situation en Palestine et en Israël a été catastrophique, notamment du fait d'un amalgame très important qu'il n'a cessé de faire, c'est-à-dire de réduire et d'analyser le conflit israélo-palestinien, non pas en termes de conflit colonial et conflit d'occupation, ce qui est la réalité de ce conflit, mais en tant que guerre contre le terrorisme. Et l'amalgame de ce conflit à la guerre contre le terrorisme fait que, de fait, les États-Unis ont soutenu complètement Israël. Il faut savoir que depuis plus de 20 ans, l'aide américaine annuelle à Israël est supérieure à 1,5 milliard d'euros. Et par rapport à ça, hein, George Bush a complètement légitimé la répression israélienne contre les Palestiniens. Il a complètement couvert l'offensive israélienne au Liban en 2006 et il a complètement discrédité l'idée de processus de paix. On a déjà analysé ce qu'il en avait été pour Annapolis, mais le fait de discréditer le processus de paix, c'est aussi le fait de discréditer encore plus l'autorité palestinienne et de favoriser le Hamas. Et en favorisant le Hamas, ça permet ensuite de dire, ben, vous voyez, les Palestiniens sont des extrémistes, on ne peut donc rien faire, il faut donc soutenir Israël. Alors, par rapport à ce choix, bien sûr, l'élection de Barack Obama, on se dit que ça ne peut pas être pire. Néanmoins, hein, Obama ne représente pas une rupture, hein, comme nous l'a expliqué Daniel. N'oublions pas qu'au mois de juin, quand il a gagné les primaires américaines, un de ses premiers discours a été de dire que Jérusalem devra rester la capitale d'Israël et qu'elle sera indivisible. Sous-entendu que ce sera l'unique capitale d'Israël et non la capitale d'Israël et de la Palestine. Ce qui est, or, ce choix que Jérusalem soit la capitale d'Israël et la Palestine est la position internationale reconnue par l'ONU, etc., etc., contre laquelle se bat Israël en essayant d'annexer la partie palestinienne de Jérusalem par le biais de ce qu'on appelle la colonisation. Et là, les chiffres sont assez clairs. Jérusalem, hein, on a à peu près 200 000 Palestiniens qui vivent 250 000 Palestiniens, 200 à 250 000 Palestiniens qui vivent à Jérusalem-Est. Et il y a actuellement toute une colonisation de Jérusalem-Est par les Israéliens. On compte près de 200 000 colons israéliens dans Jérusalem-Est. Et actuellement, la construction du mur a pour but, dans son tracé autour de Jérusalem, de faire disparaître la partie palestinienne de Jérusalem. Et cette colonisation, elle n'est pas ancienne, elle est actuelle, elle est extrêmement récente. Hein. Un seul exemple, au mois de juillet, le gouvernement israélien, par le biais d'une commission de planification urbaine, a par exemple annoncé la construction de plus de 900 logements dans une colonie qui s'appelle Har Homa, hein, et qui se place dans un projet plus global de construction de 40 000 logements en 10 ans dans cette partie de Jérusalem Est. Cette colonie d'Har Homa a été fondée qu'en 1997. Depuis, elle regroupe déjà 10 000 personnes en 10 ans, en attendant les milliers d'autres que le gouvernement israélien a choisi de placer. Et ce choix de la colonisation qui est totalement contraire à tous les engagements israéliens, que ce soit concernant la feuille de route ou qu'on se soit à Annapolis, où le gouvernement israélien à chaque fois explique qu'il va geler la colonisation, les faits sont là pour démontrer exactement le contraire. Et ici, nous, en tant que Français, il faut qu'on sache, par exemple, qu'actuellement, le gouvernement israélien construit un tramway qui a pour but de relier Jérusalem-Ouest aux colonies israéliennes de Jérusalem-Est, ce qui est totalement contraire au droit international, puisque l'ONU reconnaît qu'il est interdit de le faire. Et que fait, qui s'occupe de construire ce tramway? Ces deux entreprises, hein, dont Alstom et la Comex, deux entreprises donc, qui ont eu le contrat en lien avec le gouvernement français qui est totalement et depuis longtemps au courant de ce projet. Et vous remarquerez que pareil, on a très peu entendu parler de ce projet. Alors, cette situation n'est pas spécifique à Jérusalem. On va avoir l'occasion de reparler de la colonisation avec Amal, juste après une petite pause musicale.
Dissidence, l'émission politique tactique qui mène la danse. Roi alternatif, attaque, Valério et Judy regardent ailleurs et autrement tous les samedis matins entre 11h et midi sur le 99.1. Dissidence rediff dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du mat. Dissidence.
Israël occupe Gaza et Jérusalem Est. Suite aux 6 jours de combat de 1967. Mes parents se marient, septembre est noir. Dans les camps, à Munich, la prise d'otages se finit dans un bain de sang. Khomeini quitte le château de Noufle et le chat s'enfuit d'Iran. On est en 1979, les Russes rentrent en Afghanistan. Bagdad attaque Téhéran, c'est le deuxième choc pétrolier. Et j'ai à peine un an quand Sadat est assassiné. J'attends les jours heureux si Dieu le veut. Loin la gueule de mon sous-off et des tirs de Kalachnikov. Mazel Tov, en Galilée cette année-là, le pays du cèdre prend feu et tes parents fuient les combats de 1982. La Syrie autorise l'Iran à soutenir le Hezbollah. Des milices chrétiennes pénètrent dans les camps de Sabra et Shatila. Le Hamas défie le Fatah, tu déménages à Nazareth. C'est la première intifada en 1987. Les accords d'Oslo fixent les frontières, tes colonies sont démantelées. Et l'année où tu perds ton père, Rabin est assassiné. J'attends les jours heureux si Dieu le veut. Loin la gueule de mon sous-off et tes tirs de Kalachnikov. Mazel Tov, à Kaboul les maîtres sont talibans. La CIA n'est plus sur le terrain. Les GI sautent sur l'Afghanistan après septembre 2001. Riyad finance le djihad mais contrôle pas ses combattants. Mais faut qu'on fonde sur Bagdad et tu portes notre enfant. Le Hamas gagne les élections, j'ai hâte de finir mon service. L'Iran refuse les inspections dès le début de 2006. Et à chaque incursion de Tzal, répondent les tirs de Katyusha qui atteignent sans mal les civils d'Haïfa. J'attends les jours heureux si Dieu le veut. Loin la gueule de mon sous-off et tes tirs de Kalachnikov. Mazel Tov.
Et voilà, retour sur le A.
Ah, ça y est, c'est la valise, c'est la valise.
Attendez, là.
C'est Barack Obama.
Ah, non, ben bah, voilà. Alors.
Et oui, chers auditeurs, vous êtes bien en direct sur HDR. La et preuve. Vous voyez, les auditeurs commencent déjà à appeler.
À réagir.
Le standard flambe.
C'est le service après-vente de HDR.
Donc, vous êtes toujours sur HDR 99.1, aussi en direct sur www.radiohdr.fr. Et nous venions d'entendre une chanson du groupe Volo qui s'appelle Jours Heureux et qui donc parle de la Palestine. Là nous allons laisser reprendre Benoît qui nous parlait avant la pause musicale de la colonisation. Il va nous donner quelques chiffres et ensuite nous aurons quelques précisions avec Amal.
Ah oui, je vous ai parlé de la colonisation à Jérusalem, effectivement, parce que Jérusalem est une ville emblématique, mais bien sûr vous vous en doutez, la colonisation ne s'arrête pas à Jérusalem. On compte dans toute la Cisjordanie, Jérusalem compris, 450 000 colons israéliens, sachant que la population israélienne est de 6 millions de personnes, ça représente quand même 7,5% en gros de la population israélienne qui vivent illégalement en Palestine. Alors ce phénomène ne cesse de s'accentuer, hein, puisque depuis le début de l'année 2008 jusqu'à la fin du mois d'août, en près de 6 mois, il y a eu plus de 400 appels d'offres officiels du gouvernement israélien pour construire de nouvelles colonies en Cisjordanie et construire de nouveaux logements. C'est vraiment un phénomène totalement d'actualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque mondiale a fait un rapport très récent, hein, la fameuse Banque mondiale, où elle estime qu'actuellement 38% de la surface de la Cisjordanie sont occupées ou utilisés par Israël, puisqu'il y a non seulement les colonies, mais il y a aussi les routes qui relient toutes ces colonies, routes qui sont interdites pour les Palestiniens et qui sont autant d'obstacles. Hein, et donc 38% selon la Banque mondiale de la Cisjordanie sont occupés par Israël. Et c'est vraiment le cœur ici du conflit israélo-palestinien. C'est un conflit d'occupation, c'est un conflit de colonisation.
Ouais, je voulais juste ajouter quand tu parlais des routes que c'est vraiment des routes qui sont très impressionnantes quand on sait comment elles sont faites. C'est des espèces d'autoroutes de voie express qui sont quasiment aussi murées des deux côtés.
Effectivement.
On peut circuler d'une colonie à l'autre sans ne rien voir du paysage. C'est là aussi où ça joue un peu sur la population israélienne qui peut se déplacer d'une colonie à l'autre sans avoir vraiment conscience de ce qui se passe autour, vu que c'est muré, quoi.
Un des gros enjeux de pas mal de groupes pacifistes de permettre à deux populations de se rencontrer, parce que jusqu'ici tout est fait pour que les ennemis s'ignorent complètement, ne sachent même pas à quoi ressemble l'autre.
Et il faut quand même avoir en tête que la surface de la Cisjordanie est de 5600 km². Alors comme ça, vue d'œil, ça vous dit rien, mais non. À titre de comparaison, sachez que la Seine-Maritime ou l'Eure, c'est plus de 6000 km². Donc la Cisjordanie, c'est plus petit que le département de la Seine-Maritime ou le département de l'Eure. Autrement dit, c'est 450 000 colons, c'est pas 450 000 colons à l'échelle européenne, c'est 450 000 colons qui seraient dans un département,
sur le pays de Caux, quoi, en fait.
En gros, serait en Seine-Maritime ou dans l'Eure. Ça veut dire que la présence des colonies et des colons, c'est une réalité quotidienne pour les Palestiniens. C'est pas quelque chose d'abstrait, de lointain, c'est quelque chose qu'ils vivent au quotidien. On va en parler d'ici quelques secondes avec Amal. Je voulais simplement revenir sur la situation à Hébron, hein, où il existe au centre-ville une colonie israélienne qui regroupe 5 à 600 personnes et qui est entourée, entre guillemets, de la présence de 170 000 Palestiniens. 170 000 Palestiniens dont la vie est totalement déstructurée par l'existence de cette petite colonie de 500 personnes au milieu du centre-ville. Et des membres de l'association France-Palestine Solidarité de la ville de Rouen sont allés à Hébron au mois d'avril, et le témoignage qu'ils en ont fait est totalement surréaliste. Hein. Le centre-ville d'Hébron, pour les Palestiniens, puisque la ville d'Hébron est séparée en deux zones, mais dans la zone centrale où vivent 30 000 Palestiniens et cette colonie, les voitures palestiniennes sont interdites. On est dans une ville en pleine pente, donc vous imaginez les possibilités de déplacement. Il y a plus de 2000 soldats israéliens présents pour protéger entre guillemets les 500 colons, et qui donc tous les 50 mètres contrôlent les papiers d'identité des Palestiniens. La rue principale est recouverte d'un grillage. Pourquoi ? Parce que les habitants de la colonie jettent sur les Palestiniens qui sont dans la rue des briques, des parpaings, des poubelles, les couches pleines de merde, excusez-moi l'expression, mais c'est la réalité, etc., etc. Et les 1800 magasins du centre-ville, puisque Hébron était il y a encore 10 ans une ville extrêmement vivante, sont complètement fermés, grillagés, et pour s'approprier les lieux, les fanatiques israéliens de ces colonies ont dessiné des étoiles de David sur ces magasins, ce qui est un renversement
ça
de l'histoire.
Les pires heures de l'histoire.
Voilà, qui est assez hallucinant, puisque c'est les méthodes qu'utilisaient les nazis en Allemagne. Et donc, Hébron est une ville qui est symbole, entre guillemets, des conséquences de cette colonisation et de la violence de ces colons. Il y a de ça deux semaines à peu près, hein, des colons de cette ville d'Hébron qui ont manifesté très violemment et qui ont par exemple lapidé à coups de pierre un journaliste de l'AFP, Hazem Bader, qui était venu, que l'AFPS de Rouen avait fait venir dans le cadre d'une exposition de photos et de peintures, hein, et qui a été caillassé, qui avait le visage totalement tuméfié, plus de 8 points de suture à cause des pierres qu'il a reçues de la part de ses colons israéliens. Et encore une fois, on n'en a quasiment pas. Ça a fait l'objet d'une brève, puisqu'il est quand même journaliste de l'AFP. L'AFP a fait une brève, donc quelques journaux en ont parlé, mais extrêmement peu. Alors, est-ce que cette violence se limite à Hébron ou est-ce que c'est quelque chose de systématique? On va en discuter avec Amal, qui est donc palestinienne, chrétienne, d'un lieu qui s'appelle Tent of Nation, qui se trouve à 9 km au sud de Bethléem. Tout le monde a en tête la carte de la Cisjordanie et sait que Bethléem, en gros, est au sud ouest de Jérusalem, hein, Bethléem très connu pour son caractère religieux, hein, et la question que l'on se demande, Amal, d'abord, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu l'historique de la présence, de ta présence, de la présence de votre famille dans ce lieu, et la question de la relation avec les colonies. Y a-t-il des colonies autour? Depuis quand? Et quelles sont les relations avec les colons israéliens?
I am Amal Nassar. I'm a Palestinian Christian from Bethlehem. I was born and grew up in Bethlehem until this moment.
Je suis Amal Nassar, je suis palestinienne chrétienne et je suis née à Bethléem et j'habite à Bethléem jusqu'à maintenant.
I grew up in a family who loved the land.
J'ai grandi dans une famille qui aime la terre.
We own as a family, my grandfather bought a piece of land southwest of Bethlehem.
Mon grand-père a acheté une petite part de terre au sud-ouest de Bethlehem.
In 1924,
en 1924,
we have the original paper from the land during the Ottoman, British, Jordanian, Palestinian.
Nous avons tous les documents originaux qui attestent depuis l'époque ottomane, britannique, jordanienne et même israélienne.
The land is located on top of hill.
Cette terre est située en haut d'une colline.
950 meters over the sea level.
À 950 mètres au-dessus du niveau de la mer.
In 1991,
en
1991, the Israel government,
le gouvernement d'Israël,
took a decision to open a project, to open a road through our property.
L'État d'Israël a pris la décision d'entamer le projet de construire une route qui traverserait cette partie de terre.
They brought bulldozers.
Et ils ont ramené les bulldozers.
In order they wanted to connect the two settlements together.
Ils voulaient en réalité connecter deux colonies ensemble.
The land is around 42 hectares.
La terre fait environ 42 hectares.
and it's surrounded by four Israeli illegal settlements.
Et elle est entourée par de quatre de cinq colonies illégales israéliennes.
We have to put this declaration of the Israel government because they consider this piece of land as a state of Israel land.
Ils considèrent cette petite part de terre comme une part de l'État israélien.
We have to challenge this declaration.
Nous avons à nous battre avec ces déclarations.
We put this case into a legal battle.
Et ils ont décidé de placer cette bataille dans un cadre légal.
Because as Palestinians, we are living under military laws.
Parce qu'en tant que Palestiniens, nous vivons sous des lois militaires.
So we hire a lawyer, a Palestinian lawyer.
Donc ils ont fait appel au service d'un avocat.
For 8 years under the military court.
Sorry?
8 years, the Palestinian lawyer defend the land.
Pendant 8 ans?
From 1991.
Depuis 1991, de 1991 et pendant 8 ans, il a défendu cette part de terre.
After 8 years of defending the case.
Après donc 8 ans de défense de ce cas.
Israeli court decision, they say we don't want Palestinian lawyer, we want an Israeli lawyer has to be under Israeli law.
Le tribunal de justice d'Israël a déclaré qu'il ne voulait pas d'un avocat palestinien, mais bien d'un avocat israélien, puisqu'on se plaçait sous les lois israéliennes.
They know the Palestinians they cannot afford to defend the land, so they give up hope.
Sorry?
They know the Israel government that the Palestinians they cannot afford to defend the land.
Ils savaient que les Israéliens ne pouvaient pas avoir accès à la défense de leur propre terre.
But we insist to continue to defend the land.
Mais ils ont insisté pour continuer à défendre cette terre.
Because my father used to say, whatever the difficulties, you have not to lose up hope.
Son père, le père d'Amal, avait l'habitude de dire. What did he say?
You have to keep hope alive.
On doit toujours garder l'espoir vivant.
So we insist to continue the case. We found an Israel, a Palestinian lawyer had Israeli ID to continue the case.
Donc l'avocat palestinien voulait continuer à travailler et défendre ce cas.
We paid thousands of dollars for the lawyer to defend the property.
Nous avons payé des milliers de dollars pour cet avocat pour qu'il puisse défendre leur propriété.
They kept from 1991 until this moment asking, demanding for new papers, for new maps, documents, in order that we give up.
Donc ils ont continué depuis 91 jusqu'à aujourd'hui à demander des nouveaux papiers, des nouvelles cartes, tout un tas de documents pour parvenir à ce qu'ils abandonnent le combat.
We insist to continue defending the land.
Ils insistent pour continuer à tout prix à défendre cette terre.
We face many difficulties and troubles from the settlers around the land.
Et ils rencontrent beaucoup de difficultés, notamment du fait des colons qui entourent cette terre.
They tried 3 times to open a road through our property in order to connect 2 settlements together.
Donc ils ont essayé à 3 reprises de construire des routes pour connecter les différentes colonies et des routes qui traversent la propriété.
We tried to, when they attack us on the land, on the property, the settlers were weaponed, armed, and the soldiers surrounding the area. We tried to call the Palestinian police, but they couldn't come.
Quand ils attaquent la propriété, les colons sont armés. Euh, ils arrivent de partout autour avec des soldats israéliens. Ils essayent d'appeler la police palestinienne, mais elle ne peut pas venir.
The land is considered as a Palestinian land.
Cette terre est considérée comme un territoire palestinien.
But because of the settlement surrounding the area,
mais du fait de l'entour, enfin, qu'elle est entourée par des colonies israéliennes.
They considered it as Area C under Israeli control.
Elle est considérée comme une zone C sous le contrôle israélien.
Alors effectivement,
qu'est-ce que c'est qu'une zone C ?
Voilà, pour nos auditeurs, il faut quand même peut-être expliquer, c'est que depuis les accords d'Oslo, la Cisjordanie est divisée en trois statuts différents, les zones A, les zones B, les zones C. Les zones A sont sous le contrôle de l'autorité palestinienne, donc c'est une police palestinienne. Les zones B sont sous contrôle à la fois des Palestiniens et des Israéliens, et les zones C sont sous le contrôle uniquement des autorités israéliennes. Et effectivement, Tent of Nation est dans cette zone C, donc c'est l'armée et la police israélienne qui y font régner l'ordre. Sauf que juste le village, en fait, juste à côté de la ferme, se trouve, lui, dans une zone B. Et donc, quand ils ont un problème avec les colons, bah, que font-ils ? Ils appellent la police du village. Et la police du village ne peut rien faire parce que la ferme se trouve en zone C sous l'autorité israélienne. Or, les autorités israéliennes, que ce soit l'armée ou la police, n'interviennent quasiment jamais, dans 99% des cas, n'interviennent pas quand il y a des violences de colons israéliens. Alors, on va faire une petite pause musicale et on retrouvera Amal juste après la pause. Merci beaucoup Amal et Rachel qui assurent en live la traduction.
Dissidence,
l'émission politique tactique qui mène la danse. Point alternatif, attaque, Valério et Judy regardent ailleurs et autrement tous les samedis matins entre 11h et midi sur le 99.1. Dissidence rediff dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du mat. Dissidence. Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio HDR, you are on Radio HDR, et vous venez d'entendre le trio Djoubran, donc qui est un ensemble de Palestiniens qui jouent du oud. On me dit que c'est un trio, mais on me dit qu'il y a deux Palestiniens qui jouent du oud, donc il doit y avoir une troisième personne qui doit être donc aussi palestinienne qui joue dedans.
Un ensemble, donc, c'est un groupe. Hein.
Un ensemble, c'est un groupe. Un groupe, oui, c'est ça. Et donc cette pièce-là, c'était Majaz, ça s'appelle. Et donc tout de suite, nous allons reparler de Violence.
Effectivement, puisque on s'est quitté juste avant la pause musicale avec Amal, qui vient de Tent of Nation, palestinienne de la banlieue de Bethléem, enfin la banlieue 9 km, mais c'est la banlieue de Bethléem, on va dire, et qui nous a présenté un petit peu la situation du lieu où elles habitent. Et on va revenir avec elles sur les relations avec les colonies qui sont autour de Bethléem, et en particulier des violences que eux subissent vis-à-vis de ces colons israéliens.
When the settlers attack us on the land, on the property, we try to call the Palestinian police. He couldn't come because they say we are not allowed to be in Area C.
Donc, comme on le disait tout à l'heure, quand les Israéliens attaquent la propriété, ils essayent d'appeler la police, mais elle ne peut pas intervenir puisqu'elle est considérée comme zone C.
We call the Israeli captain from the Gosh Etzion settlement around.
Nous avons appelé le capitaine israélien de from
Gosh Etzion.
What is Gosh
settlement? Israeli settlement.
Nous avons donc appelé un des dirigeants israéliens d'une des colonies autour.
So he came to the place and he saw the settlers how they come in violence with weapons and with a bulldozer.
Donc il est arrivé, il a vu comment les colons israéliens, à quel point les colons israéliens étaient violents avec des armes.
We saw the Israeli captain all the documents from Ottoman, British, Jordanian, Palestinian.
Nous avons montré donc à ce capitaine tous les documents qu'on possédait au sujet de la terre.
But the settlers insist to stay on the place to continue the work because they say we have paper from this property from God.
Donc, mais les colons ont malgré tout voulu continuer leur action sur cette terre parce qu'ils ont dit nous avons des papiers au sujet de cette propriété qui nous vient de Dieu.
The Israeli captain ordered them to leave the place because he don't want problem on this place.
Le capitaine leur a exigé qu'ils quittent l'endroit parce qu'il ne veut pas avoir de soucis dans cet espace.
They were very angry before they left the property and they uprooted from the property 350 olive trees.
Ils étaient très très en colère lorsqu'ils ont quitté la propriété et ils ont déraciné 350 oliviers.
They smashed some tanks of water with their weapons.
Ils ont détruit des réservoirs d'eau avec leurs armes.
Because it's not easy for us. We on the property, we don't have electricity, we don't have water.
Il faut noter que sur notre propriété, nous avons ni eau ni électricité.
So we try to put our to invest our frustration and upsetting all these difficulties and into a positive thing.
Il est nécessaire d'investir notre frustration et notre le fait qu'on n'en puisse plus dans une attitude positive, dans un investissement positif.
Et effectivement, là, on perçoit bien ici la réalité de la colonisation et de l'occupation, la violence que ça représente pour la population palestinienne. Ici, on a l'exemple de Tent of Nation à Bethléem. Je vous ai parlé d'Hébron juste avant, et malheureusement, cette réalité, elle est la même un petit peu partout en Cisjordanie.
Et elle est strictement quotidienne.
Et elle est quotidienne. Ça veut dire qu'il y a derrière ça une volonté politique, hein, de rendre la vie impossible pour les Palestiniens, pour leur permettre, mais pour les obliger à fuir. Et donc le simple fait de rester sur sa terre et de continuer à vivre est un acte de résistance pour les Palestiniens. Et c'était un petit peu le deuxième aspect qu'on voulait aborder avec Amal, c'est qu'est-ce que eux, en tant que Palestiniens et qu'habitants de Tent of Nation, est-ce qu'ils se considèrent comme des résistants et que font-ils pour essayer de faire face à cette situation ?
We try to invest our frustration into a positive thing. We establish a small project called a Tent of Nation, the people building bridges.
Donc nous avons essayé, comme je le dis, nous avons essayé d'investir notre frustration dans des choses positives. Nous avons construit un petit projet qui s'appelle Tent of Nation, construire des ponts entre les êtres humains.
Because we hope, we believe that hope builds bridges for understanding, reconciliation, to achieve peace.
Parce que nous croyons que l'espoir peut reconstruire les choses. What was the second sentence?
Excuse me. Understanding, reconciliation.
Et il croit en la compréhension et en la réconciliation.
Because we have it's our duty is to educate people to act but not react.
Notre objectif est d'éduquer. D'apporter une éducation en prenant la forme d'agir plutôt que de réagir.
Establishing the Tent of Nation, it was the dream of my father to devote his property as a meeting point for locals and internationals.
Construire Tent of Nation était la poursuite d'un projet de son père qui consistait à dédier sa terre en un lieu de rencontre.
And we also educate people from the surrounding Palestinian, Muslim, Christian, Israeli how to share the land.
Nous participons aussi à l'éducation des habitants aux alentours, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou israéliens, à la façon dont on peut partager la terre.
And to defend our land in a non-violent way.
Et défendre notre terre d'une manière non violente.
They uprooted the settler 350 olive trees. We planted, replanted 600 olive trees.
Lorsque les colons ont déterré les 350 oliviers, nous avons replanté 600 oliviers.
On the Tent of Nation, we have several programs throughout the year.
Donc à Tent of Nation, nous avons de nombreux programmes tout au long de l'année.
We work on young children and youth and the women project.
Nous travaillons notamment sur les jeunes enfants, sur la jeunesse et sur l'éducation des femmes.
We invite internationals to as a painter to teach our children how to draw on stones because we believe that art and music relieve the pressure and oppression.
Nous invitons par exemple des peintres internationaux, des volontaires internationaux peintres pour enseigner aux enfants comment peindre sur les cailloux parce que nous croyons que l'art et la créativité est une manière de relâcher la pression.
And we have also exchange international solidarity.
Nous avons aussi des échanges solidaires internationaux.
They come to the property and they volunteer helping us in planting and participating in our programs.
Les volontaires internationaux viennent sur la propriété et participent au projet et par exemple nous aident à planter des arbres.
As Palestinian, it's very important to meet international.
En tant que Palestinien, il est très très important de rencontrer les volontaires internationaux.
For protection.
D'abord pour la protection.
And also that our people feel we are not alone.
Et pour ressentir le fait que nous ne sommes pas seuls.
It gives us a big support.
Ça nous donne un réel support.
To stay on the land.
De la volonté de rester sur cette terre.
We are now continuing to working on this project, on the women project in the village.
Actuellement, on continue à travailler notamment sur le projet autour des femmes.
Because we feel what we are doing, we will try to break the circle of violence.
Parce que nous avons l'impression que ce qu'on est en train de faire est réellement en train de briser le cercle de la violence.
Because this circle of violence never ends.
Parce que ce cercle de violence ne s'arrête jamais.
And we have the belief if I knew tomorrow will be the end of the world.
Nous avons l'impression que demain sera la fin du monde.
I will go outside my garden.
Je sortirai de mon jardin.
And plant an olive tree.
Et je planterai un olivier.
So I invite people here from France to come and plant an olive tree at the Tent of Nations.
J'invite les Français à venir à Tent of Nations, sur la propriété de Tent of Nations, à planter un olivier.
Eh bien, merci beaucoup, Amal, merci pour cette invitation. Merci beaucoup, Rachel, pour la traduction. On l'a compris, Amal et sa famille à Tent of Nations ont fait le choix d'une résistance non violente face à la violence de l'occupation. Et effectivement, nous autres Français, nous autres auditeurs d'HDR du monde entier, puisque vous nous écoutez aussi sur le web par centaines de milliers, sans doute, vous pouvez agir en vous rendant, vous l'avez compris, sur place. Hein, il y a des infrastructures qui sont très sommaires, bien sûr, puisqu'ils ont interdiction depuis 1991 de construire le moindre toit, le moindre abri, ce qui ne les empêche pas de creuser dans la colline pour faire des grottes et pour pouvoir accueillir les internationaux. Vous pouvez trouver plein d'informations sur le site www.tentofnations.org, tentofnations.org, qui pour l'instant est en arabe, anglais, allemand, mais, chers auditeurs, pour vous spécialement, d'ici peu, il sera en français, puisque l'association de l'AFPS, Association France-Palestine Solidarité Dormant, avec qui nous travaillons régulièrement, a décidé de traduire ce site et a mis en place ce projet. D'autre part, vous pouvez, via le site, acheter des arbres. Hein, vous pouvez offrir un olivier, par exemple, à Noël. Vous pouvez offrir un olivier à un ami qui sera planté à Tent of Nation. Et enfin, l'AFPS, l'Association France-Palestine de Rouen, met en place un projet actuellement afin d'acheter un tracteur. Pourquoi ? Parce que Tent of Nation est progressivement entouré de colonies et de soldats et que d'ici peu, il leur deviendra quasiment impossible de sortir de la propriété. Et donc, il faut qu'ils aient au sein de la propriété de quoi vivre en totale autonomie, que ce soit en termes d'eau, d'électricité ou de nourriture. Alors, il y a différents projets concernant l'eau et l'électricité. Les gens de Rouen ont décidé de travailler sur un tracteur pour leur permettre de cultiver les terres et d'être autonomes à ce niveau-là. Hein, un tracteur d'occasion, bien sûr, mais il y en a quand même pour 8000 euros. Donc, si vous voulez faire un don financier, n'hésitez pas à les contacter au 02 35 70 09 57 ou tout simplement pour militer avec eux, pour essayer de diffuser de l'information à propos de Tent of Nation.
Redonne le numéro doucement, oui, tout le monde doit avoir le temps de l'écrire.
02 35,
oui, ça
c'est facile,
oui,
02 70 09 57,
voilà.
Autrement dit 700 957. C'est pas bien compliqué quand même. Allez, pour conclure cette émission, puisqu'il nous reste que 5 minutes, on va donner la parole à Thomas pour parler d'un jeune homme qui s'appelle Salah Amouri. Et vous verrez qu'il y a quand même un lien avec ce que Amal vient de nous présenter. C'est la question de la résistance et de l'oppression israélienne.
Oui. Alors très rapidement, puisque c'est un cas donc complètement en liaison justement avec la répression et avec l'occupation. Passion, on peut dire vraiment qu'il va au-delà de ce mot-là. Et donc, en fait, c'est un jeune homme donc de 23 ans qui s'appelle Salah Amouri et qui est donc emprisonné alors qu'il est parfaitement innocent. Et il a fait déjà 3 années de prison en attente de son procès. Il y a eu des annulations de 20 audiences faute de témoins.
Pour quelle raison il est emprisonné?
Eh oui, c'est la question piège, Thomas.
J'allais dire si... Alors, donc, la raison pour laquelle il est emprisonné, eh bien, il n'y en a pas, puisqu'il a fait il est passé devant le domicile de Yosef Ovadia, donc chef du parti Chat, rabbin connu pour ses positions extrêmes. Et donc, il avait pensé peut-être un jour faire un attentat. Et donc, il est condamné pour ça à 7 ans de prison pour un délit d'intention. Donc, c'est vous dire à quel point, au niveau judiciaire, comment ça peut se dérouler. Évidemment, ça, c'est tout à fait révélateur d'une position d'occupation totale et d'un peuple vraiment qui subit une répression et une violence très forte, que ce soit aussi à ce point de vue-là. On pourrait faire quelques parallèles avec ce qui peut également aussi se passer en France vis-à-vis de certaines rétentions en prison, etc., qui ne sont aussi injustifiées.
Alors simplement, ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est que punir quelqu'un de 7 ans de prison pour le simple fait d'avoir un jour pensé peut-être faire un attentat, est-ce que c'est pas une prise d'otage, tout simplement, de l'État israélien, de cette personne, en l'occurrence Salah Mouri est franco-palestinien, mais ils sont des dizaines de milliers de Palestiniens à être mis en prison, comme ça, sur une simple volonté totalement surréaliste. Et j'imagine, Thomas, que j'imagine que les autorités françaises font tout leur possible pour essayer de les sortir de cette prise d'otage.
Et ben justement, c'est un petit peu mou. Justement, là, il y a une lettre à monsieur Sarkozy qui a été faite et qui s'intitule, je vais vous lire le début de la lettre et son titre, et on pourra terminer là-dessus. Si vous n'étiez pas dans une logique d'acceptation de l'occupation et de tout ce qu'elle génère comme arbitraire absolument terrible, vous ne demanderiez pas naturellement la clémence pour notre compatriote Salah Hamouri, mais sa libération. Voilà. C'est l'extrait de la lettre à M. Sarkozy qui a été envoyée le 12 novembre de cette année.
Effectivement, chers auditeurs, l'émission se termine. C'était Dissidence, animée cette semaine par les Alternatives sur la question palestinienne, avec à la technique Shérif, à la traduction Rachel, notre invité qui était aujourd'hui pas en direct de Tent of Nation, mais presque en direct des Hauts de Rouen, Amal, qui est venu témoigner de la réalité de la colonisation et de l'occupation en Palestine. Si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site de la association AFPS, où vous pouvez par exemple lire dans le dernier numéro de Politis, il y a une double page sur la situation à Gaza dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est complètement hallucinante, et vous pourrez aussi trouver plein d'informations si vous voulez en savoir plus sur Salah Hamouri, puisque c'est quand même un cas dont on ne parle quasiment pas, et du silence total des autorités françaises par rapport à cette prise d'otage. Vous n'hésitez pas à surfer sur le web, chers auditeurs, chères auditrices. À bientôt.
On se retrouve la semaine prochaine puisque c'est l'équipe Acrimed qui animera l'émission Dissidence. Ciao.
Si loin, si proche, un petit bout de planète. Si loin, si proche, la guerre dans toutes les têtes. Sous les chenilles des bulles de zèle, les maisons tombent en poussière. Et d'attentats en couvre-feu, les injustices, ça rend furieux. On met les enfants en prison parce qu'ils ont jeté des pierres. On élève un mur en béton au nom d'un Dieu et d'une...